RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story. Au 1er mai, les GG sont là, fidèles au poste, pour discuter, pour débattre. Le pays ne s'arrête pas, enfin il me semble, l'actualité non plus. Donc les grandes gueules sont avec vous au 32-16. Bonjour Olivier.
Oui, on sait qu'on est le 1er mai parce qu'on croise Sophie Binet de la CGT dans le couloir. Ben oui, tu t'es dit, ben oui, c'est le jour des syndicats, c'est le jour
c'est
de la
le
CGT.
Jour où travaille, c'est ça que tu faisais.
Non, j'ai pas dit ça, Antoine Dier, j'ai pas ce mauvais esprit qui t'habite. Donc, mais le 1er mai, on est là et on vous souhaite
d'être
Dier, avec nous.
Antoine, consultant auprès des entreprises, est avec nous, venu de Dunkerque. Bonjour Antoine.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Stéphane Manigold, restaurateur et de la partie aussi. Bonjour mon cher Stéphane.
Salut Alain, salut tous ceux qui travaillent.
On est là aussi parce qu'on n'a pas gagné.
Et puis attends, nous sommes avec Joël Dagosseri, coach de vie.
C'est pour ça que t'as pas gagné.
Bonjour
Joël.
Bonjour à tous. Pardon, j'en profite pour passer un bonjour à la douane, au service des douanes du ministère de l'Économie hier, qui m'ont dit de passer un message. Ils veulent plus de moyens, monsieur Bruno Le Maire.
Et le douanier, t'as piqué ta voix?
Oui, t'as piqué ta voix. Douanière dans la voix.
Ça revient petit à petit.
On discutait avec Joël tout à l'heure, si on avait gagné les 166 millions d'euros.
Non, parce qu'ils ont été gagnés en France.
Par un Français ou une Française, on ne sait pas encore qui, mais c'est en France. Et Joël me dit qu'elle viendrait quand même travailler.
Oui.
Explique-nous.
Oui, j'ai envie de venir travailler sans me sentir obligé de travailler. J'aimerais connaître ce sentiment.
Ce confort.
Exactement.
Bah, tu ferais ça une fois.
Non.
Ça, c'est ce qu'on dit tous quand on n'a pas le pognon. Hein.
Une fois que t'as le pognon, tu te barres. Hein.
Tu les funky, là. Alors, tout à l'heure, je posais la question à Madame Binet, Sophie Binet de la CGT. Je lui disais, mais est-ce que si vous aviez gagné les 166 millions d'euros, elle m'a dit, je redistribue tout.
Bah,
oui, bien sûr. Non,
bah,
attends,
bien sûr. Jusqu'au jour où ça lui arrivera. Et puis, alors là, disparition, comme tout le monde.
Moi, j'aime bien les gens qui rasent gratis.
Et toi, Antoine, tu fais quoi si t'avais gagné 166 millions?
Je continuerai à venir en grande gueule parce que ça m'amuse beaucoup. En revanche, mon boulot, je pense que je le mettrai de côté et je vivrai tranquille.
Ouais. Stéphane, ouais, je passerai un peu plus de temps pour œuvrer pour l'intérêt général.
Oh. Il est là déjà.
Et je le ferai encore plus.
C'est lié à ton parcours personnel aussi, je pense. Voilà.
Est-ce que tu arrêterais de travailler ou pas?
J'ai pas l'impression de travailler en fait, moi.
Voilà.
Parce que j'adore ce que je fais et quand tu aimes ce que tu fais.
Sereine, c'est-à-dire que tu sais que derrière, il n'y aurait pas besoin de.
Ouais, puis en même temps, je travaille entre guillemets 7 jours sur 7, je travaille tout le temps. Donc, moi, j'aime ça et j'ai pas le sentiment de travailler.
Donc, tu pourrais pas te mettre au bord d'une piscine à rien faire?
Ah, je déteste, mais moi, je suis les cauchemars en vacances. J'adore les grandes piscines, très grandes, tu vois, les qui font 20 mètres de long, 12 mètres de large.
Mais tu
j'aime ça, mais tu vois, j'aime bien le plaisir visuel. Non, mais... Le matin au café, de voir la piscine et.
On te
et
dit un tour
quoi.
Du monde. On te dit, besoin de travailler, tu pars en tour du monde. Moi, je signe tout de suite, quoi. J'ai plus de responsabilités, ouais. Je voyage.
Si, il faut voyager, mais ça permet de pas te rassurer parce que arriver de partir, par exemple, en Roumanie, en Moldavie, où là, tu vois vraiment,
ouais,
qu'il y a 25 ans, c'était vraiment la misère. Hein. C'était la France 1912. Et quand tu reviens en France, tu te dis, c'est quand même un très beau pays. Donc, c'est vrai que de voyager dans des pays qui sont un peu moins sympas que la France, quand tu reviens en France, tu te dis, c'est vraiment un beau pays.
Hein. Alors, puisqu'on parlait de l'euro million, le jackpot pour l'État, c'est les radars automatiques. On en parlera tout à l'heure à 10h.
Chaque année, l'euro million pour, ouais. pour l'État.
2 milliards d'euros, somme record, hein, l'année dernière, pour l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de radars, donc ça rapporte de plus en plus d'argent. On en parlera tout à l'heure à 10h. En attendant, premier sujet de discussion, la récupération politique concernant l'assassinat de Matisse à Château.
RMC, les grandes gueules.
Parce que, en fait, concernant le drame, la mort de Matisse à Châteauroux, c'est son père qui a décidé de s'exprimer, d'interpeller les Français, mais d'interpeller aussi les responsables politiques.
Tout d'abord, je vous conseille de lire la lettre du papa de Matisse, Christophe, qu'il a publiée sur Facebook. Elle est vraiment bouleversante, elle est très émouvante. C'est la lettre d'un papa à son fils qui dit « Finalement, je pourrais avoir la haine et je vais essayer de vivre au contraire pour toi, en souvenir de toi ». Et c'est vrai que quand on est parents, ça prend au trip. Et puis aussi, quand il parle, il dit que lui, il ne veut pas qu'il y ait de récupération politique, de quelque bord que ce soit. Mais en même temps, Il dit, moi j'espère que la justice sera faite, qu'elle ne sera pas trop laxiste, que ça sera un maximum. Je suis désolé, mais même si c'était un gamin de 15 ans, il n'y a pas d'excuse à ça. Donc il veut que la justice soit très ferme, mais en même temps, il ne veut pas de récupération. Il dit, par exemple, je vois que des gens montent au créneau, notamment parce que le meurtrier était afghan. Je ne veux pas que ce soit... qu'on s'approprie la mort de Matou. Matou, c'était le surnom qu'il donnait à son fils. De quelque bord que ce soit, il aimait tout le monde. Je veux que tout le monde soit comme ça.
Alors, est-ce que c'est une récupération politique indécente? Est-ce qu'elle vous gêne? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison, le père? On va rester dans la gentillesse. On va pas partir dans l'haine et dans la violence. C'est ce qu'il dit. Antoine, il y a de la récupération politique indécente?
Moi, je bouillonne sur ces sujets-là. C'est comme Thomas à Crépol. Ça commence par dire que il était un petit peu responsable. Vous avez entendu là ces derniers jours, on nous a dit non mais Matisse l'avait un peu cherché. Donc ça alors, c'est le
les insultes racistes d'ailleurs n'a ça pas été retenu par la procureure.
Exactement. Mais on assiste au même schéma à chaque fois. Premier niveau, le petit blanc qui s'est fait planter, on vient lui dire qu'il l'avait un peu cherché. Ensuite, la famille à chaque fois a une réaction normale de haine et de vengeance. C'est normal d'avoir de la haine et de vouloir la vengeance quand un de ses proches a été tué. Moi, on tue un de mes proches, je voudrais me venger. Et quelques heures après, quelques jours après, comme à chaque fois, le même schéma, on voit la famille revenir en disant « Non, vous n'aurez pas ma haine, je refuse la récupération politique, etc. » Qu'est-ce qui se passe? La jeune Mila nous l'avait expliqué. Il y a des gens qui viennent toquer à votre porte et qui vous disent, on va vous aider, rassurez-vous. Par contre, il faudrait dire que vous refusez la récupération politique de l'extrême droite. Il non, faudrait dire,
je suis
persuadé.
Qui dit ça?
La jeune Mila nous l'a expliqué.
Mais d'accord, mais qui vient voir Mila, ben, un exemple, c'est pas une généralité.
C'est un mélange de tout, c'est un mélange de tout. C'est-à-dire que le système est assez fort. Un coup, ce sera le maire, un coup, ce sera un voisin, un coup, ce sera le député de la majorité qui viendra voir la famille en disant, mais surtout, pas de récupération politique. Sinon, ça va faire le jeu de l'extrême droite. Alors qu'il faut dire la réalité des choses. Ce jeune-là, afghan, il était connu pour plusieurs faits déjà. Il et aurait dû être sanctionné. Couteau. Voilà.
Il était sous contrôle judiciaire.
Il y a quelques jours, la semaine dernière, ici, je disais, on a un problème avec une culture du port du couteau par des personnes issues de l'immigration. Et tout le monde m'est tombé dessus en disant c'est n'importe quoi, etc. Les réseaux sociaux se sont enflammés en disant que je racontais n'importe quoi. Mais en réalité, à force de dire pas de récupération politique, ne pas généraliser, etc., on ne traite pas le problème. Donc moi, je dis que oui, il faut de la récupération politique, il faut traiter le problème et il faut dire que nos politiques sont indécents à ne pas traiter le problème.
Joël ?
J'enlèverai juste deux aspects à ce que Antoine vient de dire, bien sûr, le côté petit blanc, etc., puisqu'on sait que on a aussi des règlements de compte entre jeunes dans les cités avec des gens issus de l'immigration. Donc en fait, on a une jeunesse qui meurt de façon barbare et violente. Et je suis vraiment comme Antoine. Moi, je respecte la lettre qu'a écrit le papa de Mathis, mais je suis maman. Et à chaque fois que je vois un jeune tuer des Thomas, des Mathis, n'importe qui, même dans les cités, là, on a entendu un jeune qui s'est fait tuer avec une Kalachnikov, etc. À chaque fois, en tant que mère, ça saigne. Ça saigne parce que c'est toujours 15 ans, c'est toujours 14 ans, c'est toujours 16 ans. Moi, j'ai une fille, elle vient d'avoir 14 ans. Et à chaque fois, je me mets à la place de ses parents, qui voient partir leur enfant le matin et qui ne rentrent plus le soir et qui ne reverront jamais. Et je suis fatiguée. Je suis fatiguée de lire ça. Et j'ai la haine. Je sais que dans un deuil, il y a plusieurs phases. Il y a une phase de déni aussi. Et je ne juge pas ce papa, mais je me dis, est-ce qu'il est dans le déni? C'est pas possible. J'ai lu sa lettre, elle est pleine d'amour, etc. Mais je me dis, c'est pas possible. Il va plus jamais revoir Mathis. Et je suis fatiguée en tant que maman. Je sais pas si on se rend compte de ce que ça fait pour ceux qui n'ont pas perdu d'enfants, mais qui, peut-être parce que je traite l'actualité, alors je sais pas, mais qui doivent à chaque fois regarder un enfant de 15 ans, de 14 ans, une fille de 13 ans se faire tabasser devant l'école, etc. Enfin, moi, j'en suis fatiguée, vraiment. Et je demande vraiment que le gouvernement, oui, récupère politiquement. Il n'y a pas de récupération.
Des solutions,
c'est notre rôle, c'est le rôle d'un politique de traiter une société qui va mal, telle qu'on le voit aujourd'hui.
Ce n'est pas la récupération.
Mais non, mais qui va traiter ça?
Il faut trouver des solutions.
Mais non, mais oui, Olivier, mais qui va traiter ça si c'est pas la politique? Qui va mettre des policiers? Qui va mettre des professeurs? Qui va mettre des éducateurs? Qui va traiter de la ZEU si c'est pas les politiques? C'est toi? C'est moi? Ben non. Donc encore heureux qu'il y ait une récupération politique de ça. Donc ceux qui disent pas de récupération politique, mais c'est des malades. Pour moi, je te dis, c'est des malades.
Mais parce c'est le papa là.
Non, non, je sais que c'est le papa et je respecte vraiment. Je sais ça. J'imagine sa douleur. Mais il faut comprendre que aujourd'hui, c'est ce papa. Demain, ça peut être un autre papa ou un autre une maman.
Il dit, il ne soyez attention à l'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'il y a aussi des politiques qui simplement s'affichent et disent ah là là, il faut faire ça. Et puis après, ils passent à autre chose. Il faut pas non plus.
Oui, oui, mais on parle d'une vraie récupération.
Et que ça aussi, c'est un peu dégueulasse parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui se précipitent sur des faits divers pour dire ah si j'étais au pouvoir, je préciferais ça. Et en fait, ils s'en fichent.
Non, mais on cherche une vraie récupération, pas juste une communication, une récupération avec un traitement et des mesures. Voilà.
Stéphane.
Et le papa de Mathis, qui a pris la parole courageusement dans sa lettre, il a tous les droits, c'est ce que disait un peu François Ruffin. Un parent qui perd un enfant, il a tous les droits. Et ben, il faut lui laisser ce droit de prendre la parole, de dire ce qu'il a envie de dire, de se dire son émotion au moment où elle est là, et que l'on partage. Et nous, on va la partager parce que c'est l'actualité, malheureusement. Lui va la partager toute sa vie. Cette émotion. Et effectivement, les politiques qui récupèrent, il faut donner une définition de ce qu'est récupérer un sujet. Récupérer un sujet, c'est en parler au moment où c'est l'actualité, où tout le monde en parle, où l'émotion nationale est présente, et puis après tu t'en cognes. Je ne sais plus qui disait, les politiques ont cette capacité à transmettre des émotions sans jamais rien ressentir. C'est un peu... la définition que l'on pourra avoir de ce qu'est la récupération politique.
Et c'est
politique.
Ce qui se passe là sur Mathis, tu penses?
Je sais pas, on verra sur le moyen ou long terme. Mais moi, je suis d'accord avec Joël. C'est un fait, un énième fait de société qui arrache encore une fois un de nos enfants de la République. Il a rien demandé, ce môme. Il avait juste envie de grandir. Il était en pleine adolescence. Et puis d'un coup, t'as un type, une ordure qui lui enlève la vie. Et
le papa, il le dit, faites attention à tous les bords, droit à tout d'ailleurs, qui s'approprient les choses. Nous, on va les faire en mémoire de notre fils. On veut pas être dans la haine. Voilà. Tu vois, il met en garde les politiques. C'est pas à vous de vous en mêler. C'est à nous de vous en mêler.
Mais quelque part, quand tu mets ce débat public en disant à tout le monde, voilà ce que je pense publiquement, à des centaines de milliers, voire des millions de Français, il faut accepter que derrière, on s'empare, nous, dans l'actualité de ce sujet, on le commente, et que politiquement, c'est le rôle d'une démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple s'exprime, le peuple émet des émotions au-delà du papa, et il est normal que le politique trouve, s'empare du sujet et trouve surtout des solutions. Parce que ce que les Français ont ras-le-bol aujourd'hui, c'est l'absence de solutions. C'est cette compassion, on allume des bougies, on met des fleurs autour d'un portail, et rien ne change, et on se donne rendez-vous au prochain, à la prochaine bougie et aux prochaines fleurs, quoi.
Quand il y a des dommages, il y a un responsable. Aujourd'hui, on doit clairement identifier le responsable, le gouvernement, qui fait entrer sur notre sol des gens dangereux. C'est-à-dire qu'on peut nous dire non, mais c'est un hasard, etc. Non, non. Chez les Afghans, il y a une culture tribale, il y a une culture de la violence. On doit avoir une surveillance accrue sur les Afghans qui arrivent d'un pays où ils ont connu l'extrême violence.
Pardon, politique. Là.
Ah voilà, voilà.
Mais c'est quoi, tu proposes
quoi? Je sais ce que tu penses.
C'est quoi,
Stéphane.
Tu proposes quoi, Antoine?
Je sais ce que tu penses.
Tu proposes quoi?
Je propose qu'on surveille beaucoup mieux et qu'on n'accueille pas d'Afghans. C'est-à-dire que me faites pas croire que ce jeune Afghan était en danger dans son pays. Sa mère est réfugiée. Elle a le statut de réfugié. Et sa mère a participé à l'agression. Mais donc, c'est pas possible que ce soit automatique.
Elle a été laissée libre.
C'est pas possible qu'on fasse entrer des loups qui viennent croquer nos enfants, quoi. Ça n'est plus possible.
Les Afghans ne jouent pas du couteau.
Mais je t'ai pas dit tous. Je me permets pas de dire.
Effectivement,
tous.
Ce sont aujourd'hui les premiers demandeurs d'asile.
Il y a pas de raison de prendre un risque tel de faire entrer sur notre sol des gens par le droit d'asile.
Mélanie disait la même chose en Italie. Elle a ouvert les vannes. Hein.
Qui ça?
Mélanie disait la même chose. Tu vas à Milan, c'est blindé. Ouais,
quel rapport avec le débat?
Tes propos entre tes propos.
En fait, à chaque fois que je parle, tu dis Mélanie, elle a fait différent.
Alors déjà, tu retrouves une séquence où je t'ai parlé moi de Mélanie, je pense que
tout le monde dit ça.
Oui, mais parce que que c'est le bon exemple, en fait. L'extrême droite qui est au pouvoir, qui dit je vais fermer les frontières, plus personne ne viendra. Et puis, au bout de quelques mois, ça rouvre tout et ça fait rentrer plus qu'avant.
Pourquoi il n'y a que chez nous qu'il y a une foule d'Afghans qui arrivent? Parce que nous, on est ouverts.
Ils vont pas ailleurs. Ce qu'on veut, Antoine, d'accord. Partons sur ta solution. On ferme les frontières, mais on a des gens sur notre sol. On est bien d'accord.
Ouais.
C'est quoi les mesures, en réalité, pour stopper ça? Parce que moi, je veux bien qu'on arrête d'accueillir qui tu veux. Mais on a encore des gens sur notre sol. Des Français. Je soutiens que notre pays, dans sa structure, a un problème. Dans le sens où on a des personnes qui sont nées sur le sol français. Elles ne sont pas venues. Donc, c'est notre terreau. Donc, quel est le problème avec notre pays pour que des personnes nées sur le sol français, soit 16 ans, qui ont 15 ans, 16 ans, qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes?
Alors,
nos jeunes français.
On va continuer.
Je te réponds rapidement.
Vas-y, Antoine.
En deux mots, les étrangers, ceux qui sont étrangers, ceux qui n'ont pas de papier d'identité français, on les expulse à la première contravention à la loi. C'est-à-dire que c'est basique, ça se passe comme ça dans tous les pays du monde.
Donc le mec, il grée un stop dehors.
Pas au sens de contravention de route, mais la première fois qu'ils contreviennent à la loi, de manière significative sur un délit, si tu veux, on les expulse. Tous les pays du monde fonctionnent comme ça. Un étranger présent sur ton sol qui ne respecte pas les lois, expulsé.
Les bazars
on aurait beaucoup moins de problèmes. Mais alors, ensuite, tu veux me parler du refus de réadmission par les États. On leur tord le bras. En Algérie, vous voulez pas réadmettre? Eh bien, Bouteflika et tous vos dirigeants, là, ils viennent plus se soigner en France. Le gaz, on va le chercher ailleurs. J'ai pas de souci. Il s'agit de protéger les Français. Ensuite, sur ceux qui sont français, là, c'est un souci de justice. Et on peut rétablir des peines fermes.
Dans tous les cas, en ce qui concerne l'assassin présumé de Matisse, il avait été signalé déjà pour des faits de violence avec couteau. Les policiers s'étaient inquétés. Ils avaient fait une fiche de signalement en disant cet adolescent est en train de glisser vers la violence. Ils l'avaient signalé. Alors, est-ce qu'on doit dénoncer la récupération politique? Le père de Matisse s'en inquiète. 32-16 pour en parler avec les GG. Vous avez entendu ce qu'on en dit. Antoine, Stéphane, Joël. Dans un instant, Serge. Il nous appelle de Charente-Maritime. Et lui, il en a assez qu'on dénonce justement la récupération politique, parce que la solution aujourd'hui, elle doit être politique. À tout de suite. Exactement. Avec les grandes gueules.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direction RMC, RMC Story, discussion, débat en ce 1er mai avec les GG, avec les grandes gueules, avec Joël Dagosséry, coach de vie, Stéphane Manigode, restaurateur. Nous sommes avec Antoine Diers, consultant auprès des entreprises. Le papa de Matisse, le père de Matisse, assassiné à Châteauroux, s'exprime avant la marche blanche qui aura lieu samedi dans le centre-ville. Et il le dit, attention à tous les bords, de droite ou d'ailleurs, qui s'approprient l'assassinat de mon fils. Il dit, moi, je ne veux pas partir dans la haine et dans la violence. Voilà, c'était un vrai gentil, donc il faut qu'on soit pareil. Serge, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'en dites-vous, Serge?
Alors, moi, je comprends pas, effectivement. Et même vous, tout à l'heure, vous êtes tombé dans le truc parce que ça a dérapé tout de suite sur les extrêmes. Je ne comprends pas que les Français, tous les jours, disent il faut que les politiques fassent quelque chose. Les politiques. Le jour où ces fameux politiques s'emparent du sujet, on leur dit vous faites de la récupération. C'est pas possible. Et je vais vous dire qu'il y a peut-être une solution. Dans tous les partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, il y a des gens plus modérés. Et pourquoi ne pas faire, parce qu'on dit si on fait une commission, on enterre le sujet. Non, pourquoi ne pas faire une commission de gens modérés par parti, de se mettre autour de la table? Moi, je suis papy d'un ado de 16 ans. Je m'en fou que ce soit la droite ou la gauche qui règle le problème. Effectivement, il faut faire quelque chose. On est incapable en France de se mettre autour d'une table avec président de région, maire, député, sénateur. Et on dit, voilà, le sujet est grave, nous avons tous des enfants, des petits-enfants, comment peut-on faire pour régler le problème? Quand un couple se fait casser la gueule à Nice, c'est deux Russes bourrés, on vire les Russes. Quand, là, c'est les Afghans, après c'est un Algérien, on n'en sortira jamais, parce que les extrêmes, à chaque fois, s'emparent, parce qu'au milieu, on s'empare pas du sujet. Il faut effectivement que le gouvernement réunisse des modérés, il y en a dans
les départements. Ils sont au pouvoir, les modérés, le milieu, il est au pouvoir.
Oui, le problème, c'est que du en même temps, ça fait 7 ans, et on a vu les limites du en même temps d'Emmanuel Macron depuis 7 ans, où effectivement, à la fois, on peut avoir un discours très ferme, comme Gabriel Attal essaye d'avoir, et puis en même temps, on a une Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation, on en parlera tout à l'heure avec l'affaire Samara, qui qui est quand même plutôt dans le pas de vague et donc il y a parfois même le contraire de ce Premier ministre. Mais si je comprends bien, Serge, vous seriez plutôt favorable au fait que quand il s'agit d'étrangers, on les renvoie dans leur pays.
Alors, pas du tout. Je vais dire non, c'est trop facile, justement. C'est pas une question d'étranger ou pas étranger.
Non, mais au moins, déjà, quand c'est un délinquant étranger, c'est la proposition d'Antoine, c'est de dire, au moins, il n'a plus rien à faire puisqu'il ne respecte pas les lois de
son
pays.
Droit à rester chez lui.
Il a perdu le droit à rester chez lui.
Vous avez vidé le pays.
Il n'y a pas autant d'étrangers, ils ne sont pas tous délinquants, rassurez-vous.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas, justement, qu'on tombe dans l'exagération. On ne semble pas. On peut. Les communautés de communes, vous avez des gens de tous bords qui arrivent à travailler ensemble. Pourquoi en France, les politiques à haut niveau n'arrivent pas à se réunir? Effectivement, je pense que Gabriel Attal...
Il parle de routes et de ponts, les communautés de communes. Il parle de routes, de ponts, de feux rouges, de trucs comme ça, les communautés de communes. Il ne parle pas de violence.
C'est vrai que les chiffres...
Il parle de parking.
On a un problème.
Il parle de parking pour la 13.
Non, mais les maires, ils sont responsables de la police municipale, quand même. Vous rigolez, là.
On a quand même un problème en France d'une augmentation très forte des homicides, des coups et blessures. Je pense qu'il y a ailleurs, mais en France, il y a un vrai problème depuis 10 ans où il y a une forte augmentation. C'est ce que disent tous les spécialistes de la sécurité, des agressions et des homicides. Et pour l'instant, alors qu'en plus quand il s'agit de mineurs, on a l'impression qu'on n'a pas trouvé de solution. Les mineurs, on les juge différemment. Ce mineur-là, il avait été pris 2 fois pour vol avec couteau. Il avait été entendu par un juge quelques jours auparavant, placé sous contrôle judiciaire. Visiblement, ça ne lui avait pas fait peur, puisqu'il a recommencé. Il est parti avec un couteau se venger d'une bagarre ou d'une altercation qu'il avait eue avec Matisse.
Supposé.
Je vais vous amener un témoignage. Il y a quelque chose qui est possible. Il y a très longtemps, il y avait eu un drame dans le football à Furiani. Oui, à Furiani, il y avait un drame. Et qu'est-ce qu'on a fait à partir de ce drame? Tout le monde s'est mis autour de la table. Et après, moi, je travaille dans le monde du sport à cette époque-là. On a trouvé des solutions pour qu'il n'y ait plus de drame, justement. Donc, ça veut dire que là, on a bien réuni des gens de tous bords. On est bien tombé d'accord sur des lois par rapport à la sécurité dans les stades. Et depuis, ça va mieux. Donc, quand on m'explique, moi, que c'est à cause d'un Afghan ou c'est à cause d'un policier tueur, ça ne marche pas. On s'en fout de ça. Il faut que ces gens se réunissent et disent, voilà, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, on veut en discuter.
Moi aussi, j'ai envie de m'asseoir à une table et de régler les problèmes. Mais vous voyez, on nous met tous les deux à la même table. Et vous commencez par dire, non mais on se moque qu'ils soient afghans ou d'ailleurs... On peut pas être d'accord, parce que c'est un élément essentiel. Ce sont des gens dont nous n'avons pas choisi, nous, le peuple, qu'ils soient présents sur le territoire. Il n'y a jamais eu un référendum, il n'y a jamais eu une loi pour dire qu'ils seraient là. C'est un truc qui nous a complètement échappé. Et donc, moi, naturellement, je me dis, attendez, il y a un nombre important d'étrangers qui sont responsables de faits de violence. Et je ne dis pas tous les étrangers sont violents, parce qu'attention, des gens vont encore me tomber dessus, mais expulsons ces étrangers violents. Ça doit pas faire l'objet d'une forme de discussion. C'est tellement logique. Et vous, Serge, vous avez tendance à me dire non, on ne peut pas réfléchir comme ça. L'idée de
se mettre autour d'une table, c'est peut-être aussi que ce soit un petit peu plus complexe que juste les étrangers sont violents, enfin certains étrangers
mais
sont violents.
Ce que je dis,
expulsons les étrangers. Ce que je vois, ce sont des solutions qui sont à l'emporte-pièce. C'est des solutions qui ne vont pas traiter cause. On a un réel problème.
Joël, t'essayes de préserver un étranger violent sur notre sol?
C'est pas ce que je te dis.
Un étranger violent.
Oui, mais je te dis juste que ta solution, elle va pas régler grand chose, parce que toi, ta solution, elle est focus sur l'étranger. Une fois qu'on a utilisé, on a viré l'étranger, la France va bien. Waouh, c'est les 30 glorieuses. T'as la jeunesse qui respire. T'as un niveau scolaire qui remonte. En fait, toi, la France qui va bien pour toi, c'est une France sans étrangers. Moi, je te dis qu'on a un problème qui est bien plus large que les étrangers en France. On a un affaissement du niveau intellectuel, culturel, de valeur, quelque chose qui s'affaisse de partout. Et je te dis que s'asseoir autour d'une table, ce serait réellement d'avoir des solutions qui ne sont pas sur 4 ans ou 5 ans, parce que la prochaine élection, elle est dans 4 ans. Il me faut tout de suite une solution.
Non, mais tu vois, là, c'est même pas chercher la solution. Parce que en ce qui concerne Matisse, la solution, les juges, ils l'avaient. Hein. Ouais. Quand t'as quelqu'un qui est interpellé 2 fois pour des faits de violence avec couteau, que les policiers signalent le pédigré du jeune homme en disant attention, il est en pleine dérive, il peut devenir de plus en plus violent. C'est pour ça que les policiers à Châteauroux sont en colère parce qu'ils l'avaient signalé. Donc il y a pas besoin d'inventer autre chose, tu vois, Stéphane.
Ouais,
à ce moment-là, la justice doit dire bon écoutez. on le met à l'ombre, je sais pas, 8 jours, 10 jours, 15 jours, est-ce que ça va être mieux ou pas? Je sais pas. Non. Mais pendant un temps, au moins, tu le mets derrière les barreaux
de leur statut de réfugié.
Passe de 125
comme il est mineur, tu peux perdre leur statut de réfugié.
Tu passes de 125% de taux d'occupation de nos prisons à 350. Hein. C'est ça, c'est une réalité.
Oui, mais ça, non, pardon, c'est une mission régalienne. Nous avons un président de la République qui a promis de construire des places de prison et qui ne les construit pas. C'est que c'est compliqué, que les riverains n'en veulent pas, que.
Les maires.
Les maires n'en veulent pas, etc. Oui, mais. Pour des solutions, pardon, mais il y a beaucoup de bâtiments publics qui sont vides. L'État est un gros propriétaire foncier. Ben, on peut peut-être récupérer déjà tous ces bâtiments qui servent à rien et les transformer en prison. On n'est pas obligé toujours de faire des prisons avec des normes particulières. Peut-être que pour les jeunes, il faut inventer autre chose. Une sorte de prison bis qui est adaptée aux jeunes, à ces mineurs, etc. Enfin, on peut avoir des idées et on a l'impression, un peu comme le dit Alain, c'est que comme il y a un fait divers, vite, il faut réagir. Alors, on s'agite, on dit, on va faire ci, on va faire ça, puis finalement il se passe rien. Il n'y a pas de vrai programme long terme avec des mesures concrètes qu'on va mettre en place.
Le vrai sujet, Olivier, des sociétés aujourd'hui, des grandes démocraties telles que l'Europe, ou même on le voit aux États-Unis, c'est le panislamisme. C'est ça le vrai fléau aujourd'hui qui frappe les sociétés. C'est pas l'étranger. C'est ce mouvement politico-religieux qui appelle. On parlait des problèmes puisque vous pointez les étrangers. Moi, je dis juste qu'aujourd'hui, le vrai. Pour moi, le vrai problème, c'est que lorsqu'une religion devient au fond un mouvement politique et appelle à se réunir et à vaincre en fait. Un, l'État d'Israël. Deux, le monde libre. Donc ça, c'est un vrai sujet.
Je suis pas sûr, parce que tu sais, dans des...
Ah, le pays islamiste, c'est
oui,
ça.
Oui, enfin, je suis pas dans des États islamiques. Ce jeune Afghan, il serait en prison et il risquerait peut-être la peine de mort.
Nicolas est avec nous.
Mais je pense qu'on est dans deux débats
différents. Bonjour Nicolas.
Bonjour,
bienvenue.
Alors,
quelle est votre position? Vous avez entendu Serge, qui aimerait bien que les politiques raisonnables prennent la main. Est-ce qu'on doit parler de récupération politique indécente, dites-moi.
Alors, bon, déjà, moi, je vais vous expliquer. Ma femme est issue d'immigration, mes enfants sont issus de deux cultures. Néanmoins, quand elle est venue en France, elle est venue pour les valeurs de la France, ses traditions. Elle a un prénom français, mes enfants, pareil, ils respectent les institutions. Mais effectivement, ces faits sont dorénavant courants. Hein. Je pense que nous devons nous y habituer, malheureusement. Et il y a toujours eu de la récupération politique, pour tout et n'importe quoi. Mais en réalité, il n'y a jamais eu aucune action concrète, car il n'y a pas de ligne directrice de la part de notre gouvernement. Pour moi, il faut qu'il y ait cette récupération politique, mais cette récupération politique, elle n'est que pour des annonces électoralistes. Vous le voyez bien, il y a un maire dans le Val d'Oise qui parlait des logements sociaux, des délinquants qui devaient, grosso modo, devaient être évacués. Il y a eu effectivement le préfet qui a fait une annonce dernièrement, et d'ailleurs il a ironisé sur le fait de dire ah ben vraisemblablement les émeutiers qui devaient être sortis l'ont pas été. On est toujours dans de la communication. Après des solutions, il y en a. Hein. Le premier ministre anglais, il a décidé de prendre des charters, de faire voter un retour pour des immigrants illégaux.
Dans un pays tiers.
Donc à un moment donné, il y a des sanctions. Moi, j'ai une société tout corps d'État, j'ai des salariés issus d'immigration qui sont venus pour la France, qui ont fui leur pays souvent à cause de conflits religieux. Ce sont des coptes, hein, des égyptiens coptes, hein, qui ont fui et qui comprennent pas ce que nous on fait en France. Et qui sont choqués. Et la culture du couteau, je sais plus qui le disait, je crois que c'est Antoine. Ils ont tous des couteaux sur eux. Et quand c'est pas des couteaux, c'est des tournevis. Donc à un moment donné, moi, ce que vous me dites, je suis pas surpris, c'est déplorable, mais il y a des sanctions, hein, mais elles sont non adaptées et non appliquées. Donc à un moment donné, quand vous êtes dans un pays de béni-oui-oui, grosso modo, à chaque fois, on trouve des excuses aux communautés, qui, grosso modo, savent très bien que notre faiblesse, c'est la laïcité. Voilà, la laïcité, sous prétexte de la laïcité.
Et donc, ça n'a rien à voir.
Peut-être que la réflexion, elle porte plus sur ce qu'on fait des mineurs, en fait. On s'aperçoit qu'il y a des mineurs qui sont plus violents qu'avant. On a donc, on avait mis en place en 45 l'idée qu'effectivement, on pouvait pas juger les enfants comme des adultes, sauf qu'on a des enfants qui sont parfois pires que des adultes dans leur comportement. Et la question de savoir, c'est comment on les traite? Est-ce qu'on doit les juger comme des adultes? Ce jeune qui a 15 ans, donc même s'il y avait une levée de l'excuse minorité, il serait pas concerné puisque c'est uniquement pour ceux qui ont entre 16 ans et 18 ans. Donc en fait, il y a un trou dans la raquette. C'est-à-dire que le juge peut pas dire qu'il était laxiste, le juge ne pouvait pas faire autrement que le mettre sous contrôle judiciaire parce qu'il n'y a pas d'autre chose prévue dans le code pénal du mineur qui a été revu et corrigé, je rappelle, par Belloubet et Dupond-Moretti très récemment. Hein, ça date de 3 ans.
Si on a la possibilité, effectivement, de permettre aux jeunes d'avoir le permis plus tôt, c'est qu'on considère qu'effectivement, maintenant, ils sont matures beaucoup plus tôt.
Donc,
la responsabilité devrait peut-être être abaissée et la responsabilité des parents tout autant, jusqu'à ce que maman, il soit majeur. Maintenant, pour les solutions...
Alors, si concerne la mère...
Non, mais là, on a un problème de...
Oui,
c'est pour ça. Moi, je me pose la question, déjà, il est passé devant le juge. Est-ce que la mère était présente? Est-ce que la mère a accompagné son fils devant le juge?
La mère, elle était même présente pour aller
planter... Oui, oui, je suis d'accord.
Elle est sous contrôle judiciaire, parce qu'elle a accusé d'avoir participé.
C'est que le juge, je me demande s'ils ont vraiment des solutions, en fait, pour traiter ce problème. Parce que ce mineur, il peut pas aller en prison. Contrôle judiciaire, mais... C'est quoi un centre éducatif fermé? Ils sont où? Pourquoi est-ce que... Oui, mais on a un problème avec le parent. On voit bien que la mère, elle est défaillante. Elle est complètement tarée.
Ses enfants sont placés.
Elle est complètement tarée. Pourquoi est-ce qu'on laisse ce mineur sous la responsabilité de ce genre de maman?
C'est là surtout, aussi peut-être qu'il y a... Pourquoi on laisse toute cette famille en France? Moi, je reviens à la base. Cette famille, on les accueille dans un foyer de droit d'asile. Ils ne respectent pas nos lois. Ils sont dangereux pour des Français. Ils repartent chez eux. C'est aussi simple.
Merci Nicolas qui appelle aussi un sursaut. Donc, récupérez. Opération politique indécente, oui ou non, à propos de l'assassinat de Matisse, on a posé la question sur les réseaux sociaux. C'est un non, pas de récupération politique indécente à 68%. Mmh. Dans un instant, on s'en fout pas. Les manifs du 1er mai, les pourboires directement sur le terminal de paiement au restaurant. On s'en fout ou on s'en fout pas? Tout de suite avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story 1er mai. Les GG sont en direct avec vous. On vous attend au 32-16 pour discuter, pour débattre. Là, dans un quart d'heure, on parlera des radars. Somme record récoltée par les radars. Parce qu'il y en a de plus en plus des radars.
Voleurs.
2 milliards d'euros récoltés par les radars. 32-16 pour en parler avec les GG, avec Antoine Dirac, avec Stéphane Manigold, avec
Joël Dagosséry. C'est pas bien.
On dirait Gollum.
Vous avez une cette imitation parfaite.
On dirait Gollum.
Joël Dagosséry.
Oh, précieux.
Mais est-ce que je peux dire un truc à monsieur Gerbier? Bah attends, tu vas lui dire le temps d'annoncer le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Vas-y. Stéphane,
non mais entre aujourd'hui. Joël qui a plus de voix et notre ami Gerbier qui a a priori des problèmes de vue, vous êtes prêts pour un parcours de golf? Non parce que là, je te rappelle qu'on n'est pas le mardi 30 avril 2004, c'est pas Barbara Lefebvre, alors... que je ne suis pas Didier Giraud et c'est pas Jean-Marc.
Alors, il faut menuiser ce qui se passe. C'est-à-dire que le menu que nous distribuons à nos GG est écrit ce matin par Louis Gerbier. Et effectivement, il y a pas mal de fautes.
Et alors non, c'est pas des fautes.
J'étais pas réveillé.
C'est que je n'ai pas modifié la tablette de main parce que Alain... On explique tout. Alain l'a en bas, celle pour demain, celle qui est importante.
Sur l'arrière de la feuille.
Vous savez normalement à peu près qui est en face de vous aujourd'hui. Vous les avez reconnus. Et puisque c'est ça, normalement, c'est pas mon boulot, mais le 1er mai, on n'est pas aidé. Donc on fait tout ça.
Voilà. Il faut savoir que Louis fait tout seul depuis ce matin.
Même les éditeurs, ils n'ont pas compris. Allez, on y va.
Après, en même temps, le 1er mai, il est payé double. Hein, donc,
Triple.
Il y a un jour dans l'année où tu es bien payé dans ce métier, c'est aujourd'hui. Ouais. Je le dis à tous ceux qui veulent se lancer dans le métier. Il faut bosser juste le 1er mai.
Allez, on y va, on s'en fout, on s'en fout pas.
Allez. Le 1er mai donc dit brin de muguet, mais il dit surtout manifestation pour la journée internationale des travailleurs. Vous vous rappelez sûrement l'année dernière, il y avait eu un grand mouvement parce que il y avait l'actu, il y avait tout le monde qui s'était réuni pour être contre la réforme des retraites. Sauf que cette année, c'est le retour à la réalité. C'est les défilés.
Voilà. Bah, sur les défilés.
Les défilés plus politiques, clairsemés, en 2022 par exemple, il y avait 100 000 personnes en gros, 200 000 selon les syndicats. Mais
toute la France. Hein.
Voilà, donc c'est quand même pas grand-chose. Le principal cortège parisien partira de République à 14h, classique. Alors la manif du 1er mai, on s'en fout pas Stéphane?
On s'en fout pas.
Joël?
On s'en fout.
On s'en fout.
Avec Stéphane, c'est intéressant.
Ah ouais, bah alors non.
Allez,
je m'en fous pas parce que j'ai croisé Madame Binet. Je ne savais pas qu'elle travaillait. Effectivement, je l'ai croisée ce matin. Et vu qu'elle est payée double, elle s'est dit, je vais peut-être travailler. Peut-être triple aussi, hein, d'ailleurs.
Bah, peut-être.
Dans les syndicats.
C'était... Bon voilà, j'avais pas grand chose.
D'accord.
C'est un vrai sujet. En fait, le 1er mai, ça veut plus dire grand chose à personne.
Surtout
c'est
quand t'as un chant qui s'appelle la lutte finale, quoi.
Oui, c'est une tradition syndicale voilà, dont je me sens très éloigné. Bravo à tous les travailleurs, etc. Mais je vois pas pourquoi on a cette fête du travail, quoi. D'ailleurs, son origine est un peu douteuse, si je ne dis pas de bêtises.
C'est-à-dire
je crois que c'est un truc qui date de la Seconde Guerre mondiale, non?
Plusieurs choses. Au moment de la Seconde Guerre, il y a eu la fête du travail qui a été reprise par Pétain, oui, mais c'est pas l'origine.
C'est pas l'origine.
Ouais. L'origine, à la base, c'est bien.
Ça vient des États-Unis. Ça vient pas de Chicago, même.
C'est un complot américain.
Non, de mouvements, effectivement, sociaux à Chicago.
Oui, ça vient des abattoirs de Chicago. Voilà, effectivement, des fameux Meatpackers.
On est à la fin du 19e siècle, hein.
Oui.
Inspiré par les luttes syndicales des travailleurs américains, effectivement, voilà. Qui revendiquaient une journée de travail de 8 heures.
Bon, exactement. Je serai moins bête.
On enchaîne, Louis.
De plus en plus de restaurants proposent, au moment de payer l'addition, un pourboire suggéré, vous savez, directement sur le terminal bancaire. Donc vous avez bien mangé dans votre établissement favori, vous êtes prêt à payer l'addition, et là sur le terminal s'affiche proposition 10%, 15% ou 20% du montant total de l'addition, donc à l'américaine. Sauf qu'en France, nous, les serveurs ont un salaire fixe. Et donc pour beaucoup de clients français, ça coince face à cette quasi-injonction. Alors les pourboires suggérés directement sur le TPE, on s'en fout pas, Joël?
On s'en fout pas.
Stéphane, je me doute.
On ne s'en fout pas.
Joël, dis-nous pourquoi tu t'en fous pas.
Non, ça m'énerve. Je me sens obligée, parce que je l'ai eu encore récemment. On se sent obligé. Alors, il n'y a pas que dans les restaurants, parce que aussi dans les supermarchés, maintenant, on te dit, est-ce que tu peux donner quelque chose, etc. Donc, à chaque fois que tu as un terminal, il faut que tu... c'est pas qu'on t'oblige pas, bien sûr, mais on te fait culpabiliser. Moi, je trouve que c'est une façon de faire culpabiliser le consommateur s'il ne donne pas, en plus, de l'inflation. Donc, je suis désolée. J'aimerais qu'on revienne à une formule beaucoup plus discrète, entre guillemets, et qu'on laisse le choix, le vrai choix, au consommateur de laisser un pourboire sur la table comme ça se faisait avant. Là, il te présente le truc, choisis, puis t'as l'impression que si je fais pas,
comment ça se présente sur le terminal? Qu'est-ce qui est marqué pour le restaurant?
T'as l'addition, t'as le total, et puis t'as un choix,
trois cases.
Souvent, voilà. 15, 20, je sais plus, 10, 5, 20,
10, 15, 15, 20,
voilà. Exactement.
Ou tu rajoutes.
Ou alors, il faut dire non. Et quand tu devant la serveuse qui te tend ou le serveur qui te tend le truc, c'est compliqué. Alors que des fois t'ajustes pas, quoi. T'avais juste pour le repas, donc je trouve ça vraiment malhonnête.
Stéphane.
Non, moi je suis farouchement opposé puisque j'ai moi-même vécu cette situation. Certains de mes collaborateurs voulaient le mettre en place dans mon groupe et j'étais allé dans un établissement trois fois. J'avais laissé la première fois un pourboire mais avec ma carte. Deuxième fois, pareil. La troisième fois, elle me sort le montant. Elle me dit, bon, comme d'habitude, vous mettez ce montant-là. Et elle m'a même pas demandé si j'avais passé un bon moment, si j'avais bien mangé, etc. Et je dis ça, c'est juste pas possible. Le service à la française, la fierté de la France, c'est de bien payer ses salariés, contrairement aux idées reçues. Je dénoncerai toujours les patrons voyous qui payent mal. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. Je rappelle qu'en France, le service est compris. Les 15% de service sont compris. Et si le client, si le client a envie de laisser un pourboire, une pièce, tant mieux. S'il veut pas, tant mieux. Moi, la bonne nouvelle, c'est qu'ils soient venus dans nos établissements. Et à l'heure où on se parle, mes confrères qui nous écoutent et qui sont en train de faire de la mise en place, eux, le sujet des pourboires, c'est pas que c'est leur cadet des soucis, mais presque, parce que je rappelle que pour payer un salarié, il faut qu'il y ait des clients. Et aujourd'hui, les clients, ils sont un peu au rendez-vous absent, ils sont un peu aux abonnés absents. Hein.
Mais qui, je donne la parole à toi, mais qui est à l'origine du coup de ce 5, 10, 15
c'est une manne financière colossale.
Oui, mais qui décide? C'est à la liberté du restaurateur ou comment?
Oui, alors c'est
en fait c'est pas ton syndicat qui a demandé ça, c'est pas l'UMI ou...
Non, ce sont des terminaux de paiement, ce sont des applications qui se mettent sur les terminaux de paiement. Et en fait, il y a une masse financière qui est colossale. Tu as beaucoup moins d'espèces aujourd'hui, et donc les gens laissaient sur carte.
En fait, il y a moins d'espèces maintenant. Donc,
En fait, on a un sujet, et Olivia Grégoire qui vient régulièrement ici, on va lui porter ce sujet parce que vu qu'il y a moins d'espèces, les gens laissent pas. Or, quand tu laisses un pourboire avec une carte, c'est soumis à l'URSSAF.
Mais t'as pas besoin.
C'est ça.
Ouais. Attention, c'est soumis à l'URSSAF. Donc toi, en tant qu'employeur, mettre sur la fiche de paye du salarié avec les cotisations, etc. Quand tu laisses en espèces, il n'y a pas
déclaré.
Non. Et donc, vu qu'il y a moins d'espèces et qu'il y a plus de cartes, il y a des opportunistes, c'est comme ça, qui se sont dit, on va mettre des systèmes, on va ponctionner de l'argent des salariés, un peu comme les tickets restaurants. On va pomper encore le salarié. On va pomper. C'est juste pas possible. Donc, il faut que le gouvernement.
Donc, il faut quand même mieux laisser en espèces.
Ah, il y a des tirettes à Paris.
Non, non, mais pas c'est vrai, mais déjà, il faut y aller au restaurant. Antoine.
Laissez en espèces.
Moi, j'ai un peu de mal avec l'idée de ces pourboires en plus, parce que je considère que les restos sont déjà assez chers. Mais finalement, en bon libéral, j'adorerais pouvoir récompenser celui qui aura été attentif toute la soirée. Et donc, j'ai un problème, c'est que dans notre système actuel, comme partout, hein, tout le monde est payé pareil.
Tu voudrais le système anglo-saxon où le service n'est pas compris.
Exactement. Tout le monde est payé pareil aujourd'hui, y compris celui qui te regarde pas, qui t'amène les plats dans le désordre, etc. Et celui qui s'est donné pour que tu passes un bon moment, il n'est pas récompensé.
Il y a encore aujourd'hui de grandes brasseries qui payent ce qu'on appelle au point et à la journée. C'est-à-dire que tu as un rang, c'est un certain nombre de tables qui t'est attribué dans la journée. Ouais. Tu génères un chiffre d'affaires et tu prends un pourcentage sur ce chiffre d'affaires. Et il y a encore quelques rares brasseries, brasseries parisiennes qui.
J'ai une question. Quand tu laisses, par exemple, on te dit voilà, ça vous coûte 17 euros et que tu laisses 20 euros. Parce que tu dis, il y aura 3 euros pour le service. Est-ce que ces 3 euros que tu laisses en plus,
sur la carte.
Ça arrive, ça.
Je sais jamais si ça va dans la poche du salarié.
Est-ce que ça va vraiment dans la poche du type qui t'a servi? Et est-ce que c'est ponctionné par des impôts?
Mais déjà, ça va forcément dans la poche du serveur. D'accord. Parce que c'est lui qui encaisse et décaisse et rend la monnaie.
D'accord.
C'est pas le patron qui rend la monnaie. Donc, quand tu laisses sur les 17 euros, tu laisses 20, le serveur, il fait ce qu'on appelle un rendu de monnaie.
Et est-ce qu'il paye les impôts
les 3 euros? Non, parce qu'il fait un rendu de monnaie en fait.
Il va faire en espèces, ouais.
Il fait un rendu de monnaie au client.
Il fait une balance entre ce qu'il a en espèces sur lui.
À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est puisqu'on n'a plus d'espèces, et effectivement, si tu as envie de récompenser la personne qui t'a servi, tu rajoutes un peu plus sur la carte.
Nous, on dit que c'est des rendus de monnaie.
Hein?
On dit que c'est des rendus de monnaie au client. Voilà. J'ai pas de monnaie pour le voiturier, j'ai pas de monnaie pour...
Parce que du coup, avec le terminal de paiement, quand il y a le fameux 5, 10 ou 15, toi, t'as l'impression que c'est le restaurateur qui te l'impose. Or, c'est pas le restaurateur qui l'impose. Il l'accepte, mais c'est pas lui qui décide de le mettre.
T'as quand même un certain nombre, pas la totalité, mais t'as quelques confrères qui mettent ça en place... pour que sur la fiche de paye, le salarié ait le sentiment de mieux gagner. Moi, je suis favorable à ce que ce soit sur la fiche de paye du salarié pour qu'effectivement il ait plus de pouvoir d'achat, mais que ce soit pas un revenu taxé. Mais il n'y a pas que les restaurateurs qui prennent des tips. Je rappelle, quand tu vas chez le coiffeur, à la manicure, etc., tu peux aussi laisser, et on laisse, moi je laisse, quand je vais chez un prestataire de service, je laisse
un pourboire.
Un livreur qui vient te livrer un meuble que tu as acheté dans un magasin, tu laisses aux déménageurs une pièce. Enfin, c'est assez courant.
Parce qu'on a de moins en moins
le plaisir quand tu travailles j'ai 3-4 frères et sœurs qui travaillent dans la restauration, et le plaisir quand tu travailles dans ça, quand tu es en tout cas serveuse, etc., c'est aussi parce que tu as du pourboire en liquide, et que la fiche de paye, c'est sympa, mais c'est aussi parce que tu ressors le soir avec peut-être 50 euros ou 20 euros et que tu vas faire tes courses, etc. Là, de toute façon, je milite pour qu'on garde du liquide. J'en garde à chaque fois sur moi, parce que ce soit des personnes qui demandent des pièces dans le métro ou quelque chose, je veux avoir quelque chose à donner. Enfin, la carte, t'as rien. T'es là, j'ai rien sur moi. C'est sympa.
Le problème,
mais c'est le plaisir d'avoir de l'argent quand tu sors du travail, d'avoir de l'argent et de pouvoir faire tes
La maison, elle compte ses sous, Joël.
Mais moi, en tant qu'étudiant, je travaillais dans un salon de coiffure. J'étais à la caisse et j'avais souvent des pourboires. J'étais contente. J'avais 18 ans, 19 ans, d'avoir 20 euros, 30 euros le soir.
Le liquide disparaît peu à peu. Le liquide disparaît une autre fois.
On peut acheter une baguette avec son
smartphone.
Moi, là où je suis farouchement opposé, c'est qu'au fond, on va arriver dans une société française où le service est quand même reconnu mondialement, à une société où celui qui laisse du pourboire, on va bien s'occuper de lui parce qu'on le connaît, c'est un habitué, il laisse. Mais l'habitué qui laisse pas, lui va nous emmerder, on va pas forcément bien s'occuper de lui. Et tu génères en fait de l'insatisfaction client, et l'entreprise perd des clients comme ça. C'est plutôt une perte de clients.
Les amis, 32-16 dans un instant pour témoigner avec les jeux, avec les grandes gueules. Vous savez quoi? Alors là, je sais que je peux compter sur vous, parce qu'on va avoir la France du 1er mai, mais la France qui est sur la route, la France va appeler les grandes gueules. Pourquoi? Parce qu'on va regarder avec vous, et avec un plaisir non dissimulé, la carte des radars. Ces radars qui ont rapporté l'année dernière 2 milliards d'euros. Alors, on va bien sûr regarder en détail où va l'argent des radars.
Ça, c'est une bonne question.
Mais on en a de plus en plus. Donc, si ça rapporte de plus en plus d'argent, c'est qu'on est de plus en plus flashé. Si on est de plus en plus flashé, est-ce que ça veut dire qu'on commet de plus en plus d'infractions? Oui ou non?
Mais non.
Olivier, la PVA, pour venir en parler avec les GG.
Je conteste tout.
Jusqu'à midi,
les grandes gueules.